des autres. Je mets qui règne sur Julie Schneider. Pendant ce temps, le banquier témoigne que t'es pauvre. C'est mon air motrice qui contrôle mes mouvements. Mon mot de vie n'est pas trop essoufflant. Pour être connu au Québec, tu dois sucer des bêtes ou avoir vécu de quoi d'émouvant.
À la bonne heure. Jusqu'à 20 heures.
Laissez l'amour à ceux qui s'aiment. Laissez l'enfance à nos enfants. Qu'ils vivent leur rêve d'être un jour plus grand. Il y a trop de larmes, personne n'entend. Devenir. Laissez une chance à cet avenir. Les gestes, les regards, faut se donner.
Bonsoir, bienvenue à La Bonne Heure. Je m'appelle Oliver, on va être ensemble pour la prochaine heure. De retour au programme habituel, pour ceux qui ont été là la semaine dernière, merci pour vos messages, vos commentaires, c'est vraiment apprécié, ça m'a touché. On a commencé avec Bruno Pelletier, Vivre sa vie, de son album paru en 99, D'autres rives. J'avais oublié cette chanson-là, je vous le dis vite, là. Pendant le mois de novembre, j'ai acheté des billets pour mes parents, les 25 ans de Miséréré au Théâtre Maisonneuve, Bruno Pelletier en spectacle, Quatuor à cordes, Kim Richardson, ça brasse. Il y avait juste deux billets collés, fait que je les achète pour mes parents, puis je me dis, bah, c'est pas grave, je me reprendrai. Et puis là, en fin de semaine, j'avais le FOMO. Fait que j'étais voir s'il restait des billets, il en restait plus. Fait que j'allais voir le setlist d'un de ses derniers spectacles. Puis là, je regardais ça, comme, tabarouette, il y a des tunes, puis il y a des noms de chansons que je me rappelais pas. Puis là, j'ai été écouter du Bruno Pelletier, donc là, je suis retombé sur Vivre sa vie. Puis là, je suis comme, ah ouais, je connais ça. Puis là, je suis comme, il me semble qu'il y avait de la guitare dans cette chanson-là. Et là, ça revient. Puis là, ça, c'est des années 90. Violon, comme si t'écoutais la matrice. C'est bon. Fait que c'est ça, j'ai écouté ça, puis j'ai même acheté la chanson. Je me suis dit, ah, j'ai ma chanson de début d'émission. Et puis, après avoir écouté du Bruno Pelletier à côté, ça me dit, écoute ça! Excusez-moi, je vais finir par arrêter. Fait que c'est ça. Puis je salue mon ami Rift Abrachi qui me dit « Ça se peut qu'on aille voir Bruno Pelletier à Laval le 19 avril. » Puis je lui dis « Ben, ça tombe bien parce que Métro Montmorency, j'ai le goût d'essayer le Five Guys. » Depuis que celui sur Sainte-Catherine a fermé, puis l'autre qui est près de Square Victoria est tout le temps fermé à chaque fois qu'on passe. Je me suis dit « Gars, avant, de ce coin-là, c'était un désert alimentaire. Là, maintenant, il y a un peu plus de restauration raffinée comme le Five Guys là qui fait partie d'espèce de gros building. » Je suis pas encore certain de ce qu'il y a là-dedans. Il y a le condo locatif, d'autres affaires commerciales en face du Métro Montmorency. C'est gros, là. C'est... ça pousse, c'est gros. Il manque un peu d'armes, mais bon, c'est pas mal gros. Et c'est ça, 19 avril, si on y va, je vous en reparle. Mais samedi, j'écoutais du Bruno Pelletier à côté quand j'ai appris le décès de Paul Hood. Et ça m'a rendu très triste parce que la veille, je pensais à lui. Je pensais que c'était Monsieur Hood qui revenait à la journée, parce que je m'ennuyais de lui à la journée. Il était pas long, on savait pas trop pourquoi. Je me disais, il y a de quoi, c'est pas juste le changement d'heure puis le fait que le soleil se couche plus tôt pendant l'hiver. Il doit y avoir quelque chose. Et puis vendredi dernier, c'était Pierre Houde qui venait parler justement de F1. Et puis le lendemain d'apprendre son décès, ça m'a touché. Je me suis changé les idées en allant écouter des clips de Paul Houde sur YouTube, des sketchs, lingo, les vrais saves. Et puis après ça, ma copine et moi, on a écouté le téléjournal. Et puis il y avait deux entrevues. Puis c'est drôle, les deux entrevues se sont parlées. Je vais vous faire jouer le premier extrait. C'est Jean-Philippe Vautier. Tu sais, tout le monde apprend en même temps le décès de Paul Hood, à part son frère qui l'a su tôt le matin, qui a quand même honoré son contrat. Pour vrai, faut être fait tough, tu sais, pour dire, gars, je vais quand même rentrer à job, je vais commenter la F1, puis en tout cas, son frère m'a beaucoup ému, à tout le monde en parle. Vous irez écouter l'entrevue. Je trouvais ça émouvant. Jean-Philippe Vautier, comme tout le monde, apprend ça pendant l'après-midi, et donc va parler de son ami Paul Hood à la télévision, et il dit ceci.
C'est difficile de décrire Paul, parce qu'encore une fois, Paul est embarqué à la radio comme un spécialiste des chiffres, puis c'était un peu le running gag, parce que, tu sais, Paul est, je disais, c'est une calculatrice humaine, il était capable de nous donner à peu près toutes les statistiques qu'on pouvait même imaginer. C'était aussi le running gag de sa carrière. On était capable d'y demander qu'était le meilleur 60 mètres aux Jeux Olympiques de 83, puis 84, qui était capable de nous le dire.
Et puis, après ça, il y a Charles Lafortune, bien sûr, qui a co-animé Le Cercle avec Paul Hood. Et puis, il est revenu sur cet extrait-là, puis ça me fait sourire.
Mais il y avait effectivement cette mémoire phénoménale-là, puis il nous reprenait si on disait pas la chose juste. Comme tantôt, Jean-Philippe Vautier a dit qui avait gagné le 60 mètres aux Olympiques de 1984, et Paul lui aurait dit si c'était le boycott soviétique, et ils étaient pas venus à Los Angeles, et il lui aurait dit, Jean-Philippe, il n'y a pas de 60 mètres aux Jeux Olympiques. C'était Paul...
Donc vous avez appris de lui beaucoup.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ça m'a fait sourire, mais après ça, j'ai fait une recherche rapide, puis c'est inexact ce que Charles Lafortune a dit. Il n'y a pas de 60 mètres. En fait, il n'y a plus de 60 mètres, parce qu'aux Jeux olympiques de 1900 et 1904, il y avait l'épreuve du 60 mètres. C'est fou, là. Il y a 120 ans, ça va faire cet été, 120 ans, qu'il y a eu aux Jeux olympiques l'épreuve de 60 mètres. Moi, je savais pas ça. Peut-être que Paul Hood savait ça, puis c'est ça qui rend la chose encore plus impressionnante. Je dis, ce gars-là, il en savait du stock, là. C'était, les gens disaient, c'était Google avant le temps. Il était érudit, il savait des choses. Puis, tu sais, ce qu'on parle là, par rapport à l'intelligence, puis comment on mesure le niveau d'intelligence, puis la rétention d'informations, certains disaient, ben, vous savez, il y a des gens qui vont juste retenir l'information, puis c'est ça leur force, puis ils sont pas plus intelligents parce qu'ils retiennent l'information. Mais apparence que l'intelligence, je suis pas un spécialiste de cela, mais disait que c'est la capacité également de faire des liens. Tu sais, Paul Hood, c'était bien sûr une bibliothèque sur deux pattes d'informations, mais aussi sa capacité de faire des liens dans des entrevues, et lorsqu'il était à la radio, d'ailleurs, Paul Hood disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme un homme de radio. Moi, quand plus jeune rythme, à part la fois où je suis allé chez l'orthodontiste le matin, puis je veux pas refaire ma chronique de hier. Chronique, on dit ça vite, là. C'est moi qui ouvre un micro puis qui parle. Mais il était à rythme. Moi, je l'ai connu plus au 98.5 en semaine, puis là, par la suite, la fin de semaine, pour ça, BPN Sport, puis après ça, on l'a réentendu à la radio de Radio-Canada tout un matin, puis à la journée, il était encore jeune. Mais c'était sa capacité à la fois de connaître des choses, mais aussi de faire des liens avec des choses, puis cette force qu'il avait de savoir des choses, mais en n'étant pas prétentieux, hein, parce que des fois, des gens qui sont brillants, qui connaissent beaucoup de choses, peuvent avoir l'air prétentieux de la manière dont ils apportent leurs faits, ou vont corriger quelqu'un avec une information qui est inexacte. Paul Hood avait ce don-là de rendre des sujets, des fois, qui étaient plus ardus, plus complexes, plus digestes et intéressants. Moi, il y a des gens qui parlaient de 110%, puis il y a un anniversaire de 110%, il faut déjà vérifier pendant la musique quel était cet anniversaire-là, Mais moi, je le disais souvent que 110%, je suis pas le sport. Mais entendre des gens passionnés sur des sujets, puis des fois, 110%, c'était plus que passionné. Mais moi, j'ai toujours cette capacité de m'émouvoir et d'être enthousiaste lorsque j'entends des gens passionnés sur un sujet. Quel que soit le sujet, moi, ça m'émeut. J'aime ça, puis je suis attentif de ça. Puis Paul Oud, c'est ça, c'était cette capacité de parler d'avion. Je veux dire, oui, il y a eu le Paul Oudin, les vrais savent, mais dès qu'il apparaissait à Infoman, j'étais content. Lorsqu'il venait parler d'un sujet X, Y, Z, puis là, c'était Paul Oud. Puis en dessous, c'était expert en quelque chose. Puis il était expert dans ce sujet-là parce qu'il le maîtrisait sur le bout de ses doigts. Moi, c'est quelque chose qui va dont je vais m'ennuyer. Pour être honnête, je vais vraiment beaucoup m'ennuyer de cela. Puis je voulais juste faire salutation. Puis grâce à une erreur de Jean-Philippe Vautier qui, j'imagine, c'est l'émotion. Au moins, c'est rattrapé, c'est 84, mais j'ai pu aller lire sur le 60 mètres. Puis oui, c'est une discipline olympique qui a été aux Jeux olympiques de 1900 puis 1904. Je suis comme, tabarouette! Fait que ça, comme la bière jeune depuis 1904, les vrais savent. Je suis allé lire aussi sur Molson en fin de semaine, parce que j'écoutais X-Men, le premier, là, puis Wolverine dans un bar, puis là, il y a une Molson Export. Puis là, j'étais comme, mais Molson X, il dit que c'est en Alberta, où est-ce que ça se passe? Est-ce que ça boit de la Molson X en Alberta? Parce que je me rappelais d'un cours que j'ai eu à HEC Montréal. Puis j'étais allé à HEC faire un DESS en gestion, puis un des moments marquants, c'est quand le prof en marketing... D'ailleurs, que j'ai revu dans un documentaire de Patrick Huard où il parlait du service à la clientèle. Puis c'est un expert de service à la clientèle de marketing qui nous parlait en fait de Molson, qui disait à travers le Canada, il y a une marque de bière, Molson Canadian, à part au Québec. Où là, Molson Canadian, parce qu'il y a le mot Canadian, ça passait pas. Fait que là, j'étais comme, c'est-tu Molson X ou c'est-tu une autre? Mais c'était Molson Dry. Puis des années plus tard, ben, on a compris que Molson quand même a fait rentrer Molson Canadian au Québec, parce qu'ils ont commencé à commanditer certains festivals en marquant Molson Canadian. Fait que je me suis dit, bon, le cours a dû changer. Mais ça fait partie de ma vie. J'écoute de quoi? Puis là, je tique sur un détail. Je tique solide sur un détail. Puis je me suis dit, c'est vrai, c'est pas vrai? Puis bon, ça a l'air que la Molson X, elle est vendue également en Alberta. Fait que c'était logique que Wolverine boit une Molson X en 2000. Puis là, j'ai écouté X-Men 2. C'est longtemps que je l'avais pas écouté. Puis Logan Roy... Non pas c'est son personnage dans Succession, mais Brian Cox, a.k.a. Logan Roy, joue aussi dans X-Men 2. Il fait Stryker, William Stryker. Puis là-dedans, il parle de son garçon, Jason, puis il dit « My boy ». Ce gars-là a joué des rôles où il avait toujours des problèmes avec ses enfants. Fait que ferme toutes ces parenthèses-là. Aujourd'hui, à l'émission, il y a des trucs que j'avais pas pu vous parler la semaine dernière, vous comprenez pourquoi. Des trucs qui se sont ajoutés, dont une entrevue hier soir que j'ai manqué au bilan. Mais grâce à la magie d'Internet, j'ai pu aller réécouter cette entrevue de 15 minutes-là. Et j'ai sorti deux extraits. Christian Dubé, sirop d'érable. Puis j'écoute Masterchef aussi, là. Puis t'as Martin Picard qui dit souvent que le sirop d'érable coule dans ses veines. Mais je pense que Christian Dubé aussi, le ministre de la Santé, je pense que le sirop d'érable également coule dans ses veines. Puis en tout cas, je vous reviens dans quelques secondes avec cela. Puis je vais vous parler aussi de la CAQ, puis de ben des affaires. Juste avant, on va y aller en musique avec Virginie B et la chanson Alpine, par la suite Mounia de son album Jardin. La chanson Caramel, entre parenthèses, Mon cœur s'ouvre à toi. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission.
Yeah.
de, il fallait que mon micro soit ouvert, de retour à la bonne heure, c'était Mounia, tiré de son album Jardin, que je vous recommande si vous n'avez pas encore eu la chance de l'écouter. J'ai toujours la chance, hein. Tu sais, en musique, il faut jamais dire « Ah, t'as pas écouté ça ». Moi, généralement, quand quelqu'un me parle de quelque chose en musique, puis me dit « Ah, t'as pas écouté ça, ben là, t'étais où ?» C'est pas la bonne méthode d'approche, parce que le temps est limité. Moi, je disais souvent, j'ai pas le temps de faire telle affaire. Ma copine disait, non, tu prends pas le temps. Je dis, ouais, t'as raison. C'est vrai que je prends pas le temps de lire des livres assez souvent. Mais je prends le temps d'écouter des fois trop de radios d'opinion, tu sais. Puis c'est bien beau. Je me dis, ah, c'est pour mon émission, tu sais. Puis les gens trouvent ça drôle. Mais c'est vrai que des fois, tu prends pas assez le temps sur des trucs importants. Puis d'autres fois, tu te dis, je suis content d'avoir pris le temps pour écouter certains trucs, dont une entrevue de 15 minutes à l'émission Le Bilan. Il y a la joute peut-être que vous connaissez à TVA, puis après ça, il y a Le Bilan avec Paul Larocque à LCN. Et puis hier soir, moi, j'avais décroché de l'actualité. Je suis revenu de la maison après mon... Ben, je suis revenu de mon émission, j'ai pris une marche pour me rendre chez moi, j'ai soupé, puis après ça, j'ai rattrapé mes programmes que j'avais pas encore écoutés, dont Zénith, je voulais entendre Gilles Carle, le petit des Classelles. Avant, il disait le petit gros des Classelles, mais moi, je dis le petit des Classelles. Il est à un âge vénérable, 82 ans, et là, sa performance, il avait repris une chanson de Kiss, maquillé comme Kiss. Pour vrai, c'est quelque chose. Là. C'est vraiment quelque chose. Puis après ça, il reprend les bébés en formule karaoké. J'allais vous dire, allez écouter ça, mais vous pouvez pas, parce qu'il faut avoir la télé puis l'écouter en direct. Sinon, pas besoin de l'avoir l'écouter en direct. Faut seulement... mon fil arrête pas de tomber. Faut sinon écouter la télé en direct sur le web, dont Radio-Canada permet. Mais... comme c'est une émission musicale, des fois, c'est ça. C'est juste en direct. Des fois, des questions de droit d'auteur aussi. Fait que moi, j'enregistre ma télé. Fait que là, j'ai comme tous les 8 derniers épisodes de Zénith. Puis des fois, j'écoute des trucs de temps à autre. Puis je suis content d'avoir vu... J'ai-tu dit Gilles Carle? C'est pas Gilles Carle pantoute, c'est Gilles Girard. Tu sais, moi. Là, c'est mon cerveau qui dit quoi, qui sait qu'il y a une erreur, puis qui... Je sais pas comment mon cerveau fonctionne, mais bon, il me semble que j'ai dit Gilles Carle, c'est pas la bonne personne. Ça, c'est parce que j'ai écouté un autre documentaire hier que j'avais pas vu en 2020. Documentaire, on va le dire vite, là. Nathalie Petrovski sur la cancel culture qui demande l'opinion à plusieurs personnes. Quand j'ai vu Caroline Fourret parler de ça, je suis comme, ah ouais, ok, ouais, on donne vraiment, le spectre est large pour ce qui est de, mais bon, elle a parlé à plusieurs personnes qui avaient des opinions différentes. Ça, je trouvais ça intéressant. Puis, à un moment donné, il y a Chloé Sainte-Marie, qui parle de son album Je pleure, tu pleures. Puis, Nathalie Petrovski qui demande, oui, mais là, faites un album où tu chantes pas dans ta langue, c'est l'appropriation culturelle. Elle dit, non, c'est Joséphine Bacon, cette grande poétesse, qui m'a demandé de chanter, ces chansons-là. Mais on l'a pas vu assez longtemps dans le documentaire, mais je trouvais ça intéressant, cette portion-là. Puis, bon, c'est ça. Dans mon cerveau a dû faire Chloé Sainte-Marie, Gilles Carle, puis là j'ai dit Gilles. Non, c'est Gilles Girard des Classelles, Kiss. Si ça vous tente de l'écouter, vous viendrez chez nous, je l'enregistrerai dans ma télé. Je vous ferai jouer ça, c'est quelque chose. Puis il a fait une blague après, elle dit, on te maquille dessus. Il dit, oui, on me maquille, je m'en kiss. J'étais comme, c'est un génie ce gars-là. Des fois, je prends des détours pour vous dire que hier soir, après tout ça, j'ai manqué des trucs, dont le bilan de Paul Larocque. Fait qu'aujourd'hui, je me suis surpris quand j'ai vu ça sur le site de TVA. J'ai comme, une entrevue de 15 minutes. Je vais vous faire jouer de l'introduction, comment Paul Larocque présente cette entrevue.
Il est un des hommes politiques les plus en vue du Québec. Vous le connaissez lorsqu'il enfile ses habits de ministre de la Santé aux prises avec un monstre bureaucratique et un réseau de la santé qui craque de partout. Mais quelle est la vraie nature de Christian Dubé? Que fait cet homme pour se changer les idées? Lui qui est au cœur des plus grands bouleversements qui soient sa réforme visant à créer Santé Québec. Ça va en surprendre certains d'entre vous. Christian Dubé est devenu au fil des années producteur de sirop d'érable. Vous avez bien entendu. Il s'est fabriqué une petite cabane à sucre qui est devenue son repère, son oasis. Je suis allé y faire un petit tour et je vous présente Christian Dubé tel que vous ne l'avez jamais vu.
Ah, ben ouais, je pense que Paul Larocque va être le prochain animateur de la vraie nature, je ne sais trop. Puis j'écoutais ça, puis en tête, quand la première fois que je l'ai entendu, je pensais à Clément Bisson de François Pérusse, ça me rappelait un peu ça. Fait que pendant 15 minutes, Paul Larocque va, avec le ministre de la Santé, parler de sa cabane à sucre. Ma copine me disait qu'elle avait entendu une entrevue, je pense, la semaine dernière. J'essaie de le retrouver. Je l'ai pas trouvé à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, où monsieur Dubé, le ministre Dubé, disait qu'il était fatigué parce que la veille, justement, il avait été entaillé ou je ne sais trop. Fait que je sais pas si c'est ce qui a donné l'idée à la CAQ. C'est la CAQ qui a approché TVA ou TVA qui a approché la CAQ de dire... Moi, d'après moi, c'est la CAQ. Il a dû approcher. Il a dit, là, venez faire une belle entrevue Human Interest, une petite entrevue People avec le ministre de la Santé. Oui, vous pourrez poser des questions sur les Top Gun, mais c'est pas là qu'on apprend le plus de trucs, là. C'est plus le ministre Dubé qui parle de sa passion pour le sirop d'érable et tout ça, c'est une activité familiale. Acheter un terrain où, justement, où les gens pouvaient venir faire le croquette de bleuet. Mais là, depuis qu'il est ministre, avoir des gens qui viennent sur son terrain, c'est plus complexe. Donc, commencer à entailler, ça fait, je pense, 5 ans qu'il entaille. Je vous résume sommairement l'entrevue de 15 minutes. Moi, j'ai rien contre les entrevues Human Interest, mais je pense que ça en dit beaucoup sur la CAQ présentement. Pour un parti politique qui gouverne par sondage, pas plus fou qu'un autre, sont en train de voir les sondages présentement, fait qu'ils se disent, ben, faut redorer notre blason. On a des ministres qui sont connus, qui sont aimés. Moi, personnellement, j'aime bien le ministre Dubé. Et je pense que la CAQ se dit, on va jouer sur nos valeurs sûres, puis on va les rendre encore plus désirables comme personnalité. Fait que je sais pas si c'est ça, mais tu sais, on voit que c'est une activité de communication publique, cette entrevue-là. Moi, ce qui m'a vraiment fait sourire, et rire même, c'est Christian Dubé. Paul Larocque voit quelque chose, il le mentionne à Christian Dubé, et ses réactions vaut 100$. Parce que, tu sais, je veux dire, une érablière où il bouille de l'eau d'érable pour en faire du sirop d'érable, ça donne des cuvées depuis les dernières années. Il faut te redonner des noms à ces cuvées-là. Et voici ce que ça a donné.
C'est beau cuvées intérieur.
Ça va me mettre dans le trouble.
Ah oui?
Oui, ça va me mettre dans le trouble.
Bien sûr.
Parce qu'on fait un conseil de famille à tous les ans
okay.
pour décider du nom de la cuvée du sirop d'érable. Okay? En 2022.
Première
dose. Ensuite, on a fait la deuxième dose. Ici, on est allé à Liberté. Ça te dit quelque chose, Liberté?
Ah, c'est cuvée, première dose, deuxième dose, Liberté avec un A. C'est comme, cet homme-là doit être un bon, certains diront un bon vivant. Je sais pas, je pense pas que c'est un tireur de pipe comme François Legault, mais je pense qu'il doit être funé. Je me dis, pour que la famille et lui aient décidé d'appeler ses cuvées, première dose, deuxième dose et Liberté, ça serait fou qu'on apprenne dans une couple d'années que Christian Dubé avait un compte de personnages anonymes sur les médias sociaux puis qui trollait les anti-vax. Ça serait YOLO. Mais tout se peut. Maintenant, moi, je me dis que tout se peut. La semaine dernière, je voulais vous faire jouer parce que j'ai passé du temps à faire des niaiseries là-dessus. En fait, l'autre semaine d'avant, pour faire jouer ça... Pour ceux qui s'ennuient de François Legault qui nous parle de Nordvolt, ça s'est passé le 21 février, c'est un peu surréel.
Il
ne
faut pas mélanger dans le dossier Nordvolt avec l'immobilier, un projet immobilier puis un projet industriel. Donc, il ne faut pas mélanger les pommes avec les oranges ou avec les bananes.
Puis, c'était la thématique des fruits parce que Pierre Fitzgibbon, le 21 février, a dit également ceci.
Le projet immobilier était sur les milieux humides. Il a été refusé parce qu'il n'a pas bougé. Nordvolt n'est pas sur les milieux humides en question. Donc, au contraire, Nordvolt respecte l'environnement, il respecte les normes. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour...
D'avoir déjà dit que c'est un site où il y a probablement dans la rivière des poissons
à trois. Écoutez, oui, je m'appelle très bien. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est pas le jardin d'Éden, ça, là, où Adam et Ève ont croqué la pomme. Hein.
Ce qui veut dire...
Ben, c'est-à-dire que c'est un terrain qui était contaminé. C'est un terrain qui était le CIL, contaminé pendant des années. Alors, parlez aux gens de Saint-Basile, de Castreville. C'est un terrain qui était oublié. Là.
Et puis là, c'est là où, justement, j'ai entendu...
C'est pas le jardin d'Éden, ça, là, où Adam et Ève ont croqué la pomme. Hein.
Et... Faut pas mélanger les pommes avec les oranges ou avec les bananes.
Ça en dit peut-être sur mon âge, mais je me suis rappelé de cette émission.
Faut pas mélanger les pommes avec les oranges ou avec les bananes.
C'est pas le jardin d'Éden, ça, là, où Adam et Ève ont croqué la pomme.
Mais plus sérieusement, Nordvolt, le gros problème de ça, c'est qu'il y a tellement d'informations qui est partagée au compte-gouttes par surtout deux journalistes, Thomas Gerbet et Alexandre Shields du Devoir, Thomas Gerbet de Radio-Canada. Il y a tellement d'articles que des fois, c'est difficile de suivre la POC, comme on dit. Beaucoup d'informations qui sont... Est-ce que c'est caché? Est-ce que c'est non-dit? Il y a un gros problème de communication avec Nordvolt présentement, puis ça hérite des gens, dont Pierre Fitzgibbon, et le 27 février, il disait ceci.
Oui, ça m'est arrivé de dénoncer une certaine forme de journaliste, le journaliste militant. Les gens qui veulent inventer des histoires devraient écrire des romans.
Les militants devraient publier des essais. Les jeunes rigoureux, curieux et impartiaux qui veulent couvrir l'actualité politique, les encouragent à devenir journalistes.
Là, c'est là où moi, ça me fait à la fois sourire, puis je me dis, bon, mais c'est parce que ils font bien leur travail si le ministre Fitzgibbon réagit de cette manière-là. Puis, je pense pas que c'est une question dans ce cas-ci. Alors, voyez-vous, c'est un ministre qui s'attaque aux médias, à la liberté de presse. Un ministre a le droit de critiquer, peut-être, moi, dans mon sens. Là. Puis, toute personne a le droit de critiquer le travail journalistique de certains enjeux et d'aspects. Moi, je le fais à chaque semaine, tu sais. Puis, je veux dire, je pense pas que vous pensez que je suis quelqu'un qui est contre le travail des journalistes. Par contre, il faut arriver avec des faits, pas juste avec des étiquettes. Et c'est là où M. Fitzgibbon, dans ma tête, perd de son lustre en se disant, ben, vous attaquez en traitant les gens de militants. Tu sais, moi, il y a une autre personne qui utilise souvent cette manière-là d'attaquer, de répliquer, en donnant pas un argument, mais en donnant l'étiquette de militant. Puis c'est drôle parce que c'est arrivé pas plus tard qu'en fin de semaine sur Twitter. Mathieu Boccoté qui partage un article du Devoir, la capacité d'accueil, un concept qui rebondit à travers l'histoire. Sarah R. Champagne, le 2 mars dernier, dans la section Société du Devoir, qui interview des gens qui connaissent leur domaine. Mais pour Mathieu Boccoté, moi, quand j'ai lu le titre, j'étais comme, je sais que Mathieu, lui, il aimera pas cet article-là. Mais il y a une manière de dire, ben, j'aime pas pour telle raison ou tel spécialiste, des fois, erre sur tel domaine ou tel enjeu ou tel aspect. Non, Mathieu Boccoté écrit une, ouvrez les guillemets, journaliste, fermez les guillemets, militante du Devoir cherche à dynamiter le concept de capacité d'accueil en se tournant vers des, ouvrez les guillemets, experts, fermez les guillemets, qui sont surtout des idéologues ou l'art d'abolir le réel à coup de décrets théoriques détachés de la réalité. Ça, c'est un concept qui est vieux comme le monde, que M. Boccoté maîtrise de manière plus que satisfaisante pour lui, parce que d'un côté, il est vraiment fâché lorsque les gens lui accolent des étiquettes. J'ouvre une parenthèse, ce sera pas la première de l'émission. J'ai écouté Tout peut arriver. Moi, j'écoute cette émission-là religieusement à chaque semaine. Des fois, quand c'est trop bon, je l'écoute le samedi, puis le dimanche, puis je me dis, mais là, faut que je m'en garde, parce que le lundi, je finis à 6 ici, puis j'ai une heure de marche pour me rendre chez moi. C'est les lundis marche pour moi, parce que c'est ça, en télétravail, je marche moins qu'avant. Puis j'aime me garder un moment, surtout la troisième heure, des fois, est un peu plus funnée. Fait que j'aime ça marcher en écoutant la dernière heure de Tout peut arriver, lundi. Mais des fois, c'est trop bon. Fait que j'écoute ça d'une traite le dimanche. Puis là, il recevait, c'était samedi dernier, en fait. Il sortait un livre, Christian Dufour, que peut-être vous voyez lorsqu'il va comme panéliste à l'émission de Patrice Roy, RDI, là, Patrice Roy en direct. C'est disponible sur YouTube aussi. Puis là, Christian Dufour sort un livre, donc il fait une tournée médiatique à ce sujet. Puis c'est juste drôle d'entendre son entrevue où parce que le truc, c'était la critique en direct. Deux personnes ont lu son livre et critiquent son livre devant Christian Rio. Et dès qu'on commence à lui poser des questions, puis ça, c'est vrai, parce que des fois, Marie-Louise Arsenault pose une question, mais manque de temps aussi. Fait que là, elle pose la question, pense qu'il va avoir une réponse rapide, mais là, Christian Dufour veut étayer sa réponse. Puis elle dit, mais il faudrait qu'on écoute aussi les gens qui ont lu votre livre. Moi, j'y comprends, mais mettez-vous dans la peau de Christian Dufour, vous posez une question peut-être complexe qui veut nuancer, il va avoir un peu plus de temps. Mais le reste de l'entrevue, c'est Christian Dufour qui arrête pas de dire « laissez-moi parler », mais c'est lui qui a parlé tout le long. Et quand on lui a donné, en fait, ou dit qu'il y avait, je pense que c'était Nicolas Tisselier de mémoire, qui parlait d'école de pensée avec Mathieu Boccoté, Sophie Durocher, puis on parlait justement de la droite, la gauche versus le conservatisme, libéralisme, dit « les étiquettes, j'aime pas ça, les étiquettes », puis après ça, lorsque lui se fait poser des questions par rapport au livre, mentionne « oui, mais vous, peut-être, vous êtes un homme rose », je pense qu'il a dit qu'il était Nicolas Tisselier, qu'il était un homme rose, en tout cas, qu'il agissait comme un homme rose, puis Tipriani de dire, ben vous aussi, vous jouez le même jeu des étiquettes. C'est la même chose avec Mathieu Boccoté. Il haït qu'on appose des étiquettes, mais c'est le premier à le faire. Je me dis souvent, des gens qui se disent plus conservateurs savent que la cote conservateur marche ou fonctionne moins bien. Fait qu'ils se disent, on n'est pas conservateur. On va dépeindre l'ennemi comme quelque chose avec un concept foireux qui englobe beaucoup de choses, le terme woke. Nous, on n'est pas conservateurs, on est anti-woke. C'est le gars qui met le plus d'étiquettes aux plus de personnes possibles. Puis là, dans ce cas-ci, ben, discrédite le travail journalistique de la journaliste en disant qu'elle est militante, qu'elle est journaliste, entre guillemets, aime pas ce que les experts disent, met le terme expert, entre guillemets, puis ils disent qu'ils sont des idéologues. Quand vous n'aimez pas, en fait, ce que l'autre dit, ben, dites qu'ils sont militants, qu'ils sont idéologues. Ils vont essayer de terminer le débat ou de les rendre infréquentables. J'utilise la même rhétorique que Mathieu Bock-Côté là-dessus, qui nous sert si bien. Mais dans son cas, ça a l'air que ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui disent, ah oui, c'est vrai, telle personne, c'est une idéologue. Mais pourquoi ça serait des idéologues? Pourquoi cette journaliste-là ne ferait pas son travail? Pourquoi est-ce qu'elle serait militante? Parce que les conclusions de son papier ne vous sied pas bien, c'est ça? Je veux dire, quand c'est d'autres experts, des fois, qui sont plus que patentés, ça vous convient parce qu'ils vont ils vont vers votre bord. Puis ça, c'est malsain, cette manière de faire avec des biais de confirmation, puis de juste y aller avec des gens qui pensent dans notre sens, qui penchent dans notre sens et qui pensent dans le même sens que nous. Donc, qui penchent dans le même sens que nous et qui pensent la même chose également. Fait que c'est eux qu'on va mettre de l'avant. Puis les autres, ben c'est ça. Si vous êtes des idéologues, vous êtes des militants. Fait que d'entendre Pierre Fitzgibbon dire ça à propos de deux journalistes qui font bien leur travail. Puis comment je sais qu'ils font bien leur travail? Parce que Pierre Fitzgibbon n'a pas d'argument à part de dire, ben, c'est des militants. Ou il y a la technique Mathieu Bock-Côté, ou lui qui dit, ah, ben là, ils ne savent pas décrire le réel. Parce que pour eux, ce qu'ils pensent, c'est vrai. C'est ça le réel. Puis pourquoi c'est le réel? Parce qu'ils disent. Puis ce qui contrevient à leur vision de la vie, ben, ils contredisent le réel. Mais comment tu fais pour prouver que le réel, c'est ce que tu penses? Arrives-tu avec des études, avec des... Non, tu sais, il se dit sociologue, mais M. Bock-Côté, tu sais, même si c'est l'intellectuel le plus grand intellectuel au Québec, selon Richard Martineau, c'est rare qu'il y a bien des sources dans ce qu'il dit. C'est beaucoup de ressenti, tu sais. Puis une fois de temps en temps, un article sur porter la cravate, puis le veston est bien important. Parlant de journalisme et de militants, il y a Dimitri Soudas qui m'a fait sourire, toujours le 27 février, à l'émission Mordu de politique, disait ceci.
Moi, mon conseil a toujours été de simplement ignorer les journalistes qui font du militantisme. Laissez-les écrire ce qu'ils veulent écrire.
Mais ils font pas du militantisme, ils font du journalisme.
Ben oui, Dimitri, c'est pas du militantisme.
Je ne vais pas commencer à analyser les articles de M. Gerbet et de M. Shields, mais il y a, selon ma perception, que ce soit à mon époque ou aujourd'hui, des journalistes qui font du militantisme. Et ça fait partie de la réalité. Je ne vais pas faire l'autruche et mettre ma tête dans la sable. Donc, ce que le gouvernement devrait faire sur le plan politique, c'est travailler avec d'autres journalistes qui vont sortir leur message, par exemple, parler du fait que le projet... Non, mais c'est comme ça
vous
que ça marche.
Vous l'avez fait. Vous
des commentateurs, peut-être.
Non, mais
commentateurs.
Oui, mais mes amis, là, prétendons pas d'être des vierges de la politique. Là, on l'a tous fait. On a travaillé avec ceux qui étaient plus à l'écoute de notre message.
Dimitri Soudas, je vais pas commencer à analyser les articles de M. Gerbet, M. Shields, mais il y a des journalistes qui, pour lui, sont militants. Par le passé, c'était le cas. Des gens qui veulent sortir leur message. Puis je pense qu'il y a une distinction à faire entre donner le micro à des politiciens, si vous êtes journaliste, pour sortir certains scoops. Parce qu'on s'entend, des fois, des scoops, des sources, des informations qui sortent avant que ça fasse, je sais pas, une annonce officielle d'un gouvernement. Il y a du coulage d'informations, tu sais, puis le journaliste ou la journaliste doivent se dire, dans ce cas-ci, puis l'équipe, est-ce qu'on sort cette info-là? Est-ce que c'est pertinent pour la population? Oui, ça va être un scoop, puis tu sais, on va être les premiers sur la nouvelle. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont idéologiquement liés avec le ou la politicien ou la politique en question? Je sais pas, puis j'ai aimé ce que Jean-François Lisée a dit là-dessus, il dit oui, ou peut-être des commentateurs. Parce que maintenant, dans ce monde où, oui, il y a de l'information de qualité, mais quand on ouvre la télé, là, je veux dire, j'écoute RDI avec l'émission de Gérald Filion, puis je me sens mal pour Gérald, parce qu'il y avait une bonne émission avec Zone Économie, puis j'aimais ce qu'il faisait, des entrevues de fond. Là, ils l'ont mis également avec Zone Info, je sais pas si c'est parce qu'ils veulent compétitionner la joute. Ils essaient tant bien mal qu'offrir un produit où on va avoir des gens que vous connaissez, ou peut-être pas, mais que vous allez découvrir. À chaque jour, on va avoir un panel varié, ils vont venir parler de sujets et d'actualités. mais des fois, il y a des limites à avoir des gens experts en tout ou moyennement experts en tout. Ça se peut pas qu'une journée, ils viennent nous parler de l'Ukraine. Deux jours après, ils nous parlent d'éducation. Puis pourquoi c'est 20% des jeunes décrochent, et dans ce cas-ci, des jeunes garçons décrochent. Puis trois jours après, ils nous parlent du système de santé. Je veux dire... Il y a comme une limite, justement, au commentariat. Puis je dis ça moi-même en ayant une émission où je donne mon opinion une fois semaine. Mais une fois semaine, c'est une chose. Chaque jour, je sais pas comment ces gens font, là. Je sais vraiment pas. Puis il y a des gens comme ça qui font la tournée des Grands-Ducs, là. Rodolphe Vousny, là, qui est au 98.5, qui est un nouveau débatteur de temps à autre, qui va également à Zone Info, qui écrit au 98.5. Je veux dire, des fois, t'as beaucoup de tribunes, puis tu te dis, quand est-ce que tu prends le temps de t'asseoir pour analyser une politique publique ou un enjeu pour en parler? Je comprends que le rôle de commentateur, il y a comme deux sphères. C'est soit des anciens politiciens qui viennent donner leur opinion, à dire, moi, je viens du monde de la politique, j'ai été politicien, j'ai été ministre, je viens justement donner mon éclaircissement sur voici comment ça se passe dans les antres du pouvoir et comment on peut analyser un enjeu d'actualité. Puis d'autres fois, c'est des gens qui étaient dans le staff politique, puis des fois prennent aussi le commentariat comme une passerelle pour peut-être après ça retourner en politique. On peut penser à Yves-François Blanchet qui, même s'il avait été ministre au provincial, tout ça a pris sa tribune à Cogeco puis à RDI comme une passerelle aussi pour se faire encore plus connaître et après ça aller à la chef du Bloc québécois. Fait que c'est ça. Le commentariat, quand c'est bien fait, ça peut être intéressant. Moi, j'aime plus l'analyse que les sujets chauds sur des trucs qui sont plus ou moins insignifiants. Mais bon, c'est peut-être moi aussi. Mais je me sens mal pour Gérald Filion, parce que je me dis, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire des choses, puis là, t'as Gérald Filion qui essaie de ramener ça, ou de cadrer, en fait, une opinion, de dire oui, mais telle affaire. Mais bon, je me sens mal un peu pour lui. Mais Dimitri Soudas, qui sait ça, lui, dans sa tête, il y a des journalistes qui sont militants, revient un peu avec l'argumentaire de Pierre Fitzgibbon, et par la suite parlait de sondage, puis ça m'a vraiment fait sourire.
Ce sondage est très crédible, selon moi, malgré le fait qu'il a été commandé par Northvolt, pour deux raisons. Premièrement, puis j'en ai écrit des sondages où je posais les questions pour avoir un résultat prédéterminé.
Les réponses que vous voyez, hein.
Mais c'est, tout à fait. Puis j'en ai écrit un paquet. Mais il y avait aussi des périodes où je voulais des sondages pour réellement avoir des données. Ce sondage est crédible pour deux raisons.
C'est plus cher.
Je ne suis plus en politique. Une des belles expériences, c'est de pouvoir dire les choses comme elles étaient. Je prétends pas que j'étais un ange pendant que je faisais de la politique pendant 10-15 ans.
La transparence, moi, j'apprécie cette qualité-là de transparence, mais des fois, après ça, je me pose des questions sur l'éthique de certaines personnes. À dire, mais nous autres, en politique, ce qu'on voulait, c'est faire passer nos messages, nos points, puis tortiller la vérité avec un sondage taponné. Ultimement, à force de faire ça en politique, ça fait qu'il y a des gens qui vont se questionner sur les sondages en général, alors qu'il y a des sondages qui sont très bien faits. Puis d'autres fois, on a des patentes à consultation comme justement qu'est-ce qui se fait présentement pour Québec. Je vous dis, c'est n'importe quoi là. Je veux dire, il y a Infoman qui en a parlé jeudi passé, mais les questions sur, tu sais, est-ce qu'on va faire un troisième lien ou non à Québec et le réseau de transport structurant. On va consulter la population, oui, sur un coin de table qui va pas changer grand-chose pour CDPQ Infra. Mais bon, je vais tout de suite y aller en musique, puis après ça, je vais vous revenir avec d'autres sujets comme ça que j'ai pas le temps de vous parler encore la semaine dernière. Avec Navet Confi, de son nouvel album à venir, Désolé, Mouvement, Geste, la chanson Changer l'heure, parce qu'en fin de semaine, on change l'heure. En fait, on avance l'heure, on ne la recule pas. Ce qui fait que ceux qui vont travailler très tôt dimanche matin vont perdre une heure de sommeil et ceux qui vont festoyer dans les bars vont aussi perdre une heure de bonheur et de plaisir. Fait qu'oubliez pas, on change l'heure avec Navet Confi sur les ondes de la marge, toujours plus de hits. We'll be right back.
c'est pas la peine, le monde est laid. Quand les plus cons s'acharnent sur tout ce que tu fais, c'est pas la peine, le monde est
N'avait confié, changez l'heure, oubliez ça. Oubliez pas, on change l'heure en fin de semaine. Quelques petites nouvelles, comme je vous parlais de la consultation publique là à Québec, ça m'a fait sourire parce que j'ai été la remplir, voir de quoi ça avait l'air, en ne mentant pas, en disant que je venais de Montréal, puis que j'allais là seulement pour les vacances ou lorsque j'étais de passage, par exemple, à Québec, lorsque j'allais au festif de Baie-Saint-Paul, puis on s'arrêtait là. Il y avait une question qui s'appelait comment avez-vous entendu parler de cette consultation publique, cocher tout ce qui s'applique, et là vous aviez site web du ministère des Transports et de la mobilité durable, consultation publique, médias sociaux, médias traditionnels, radio, télé, journaux, bouche à oreille, autres, je préfère ne pas répondre. Et il y avait une réponse qui s'appelait moteur de recherche. Là, j'imagine qu'il parle de vrai moteur de recherche et non pas de l'émission de Mathieu Dugal. Mais ça se peut aussi qu'il parle de l'émission de Mathieu Dugal. C'est comme, OK, Mathieu Dugal a pris du galon. Là, il a rendu une réponse dans un questionnaire d'une consultation publique pour le transport structurant et pour l'auto également à Québec. Fait que shout out à moteur de recherche qui est présentement en onde à Radio de Radio-Canada. Donc pour ceux qui ont décidé de pas l'écouter et de m'écouter, je vous remercie et je vous salue. Mais de toute façon, tout ça est disponible en balado. Fait que pour moi, il n'y a pas de concurrence en radio. Je sais que dans le privé, c'est pas vraiment le cas. Là, mais moi, il y a deux émissions qui jouent en même temps. Ça se peut que j'écoute pas les deux en direct, que j'enregistre les deux puis je les écoute par la suite. Même chose grâce à la magie de la balado. J'ai le goût de vous faire jouer un extrait d'une entrevue. Ça faisait un petit bout que je l'avais enregistré, puis je me suis dit, bon, j'ai pas encore le temps de la faire jouer, Mais c'est Louis Vachon qui est interviewé par Patrice Roy. Louis Vachon, bien sûr, de la famille Vachon, le petit gâteau Vachon, qui est également big boss de la Banque nationale pendant nombre d'années, que j'avais vu pour la première fois, moi, que j'avais entendu parler de lui beaucoup plus que seulement de nom. C'était un documentaire, je crois, sur quelques épisodes de Bernard de Rome sur je crois que le sujet était la richesse au Québec, entre autres, ou réussir au Québec, mais en tout cas, interviewait des grandes fortunes du Québec, puis il avait interviewé Louis Vachon, j'aimais ce que Louis Vachon disait, puis là, question, tu sais, vous avez fait de l'argent, vous avez également été quelqu'un qui a réussi dans le monde des affaires, est-ce que la politique, ça vous intéresse? Et puis j'ai aimé la réponse de Louis Vachon.
Le ministre de la Santé se cherche un top gun pour l'agence, ouais, le plus gros employeur du Québec. Ça vous tente pas, 3-4 ans?
Je penserais pas. Je pense sincèrement... Okay. Merci de l'offre, je l'apprécie énormément. Mais il faut avoir... Le domaine de la santé, c'est comme le domaine de la finance. Il faut avoir des gens qui connaissent ça. Là. C'est improvisé, là. Moi, m'arriver là, puis oui, puis je reviens à mon commentaire tantôt. Le succès en leadership, c'est contextuel. faut pas penser parce que tu as eu du succès dans un certain endroit, dans une certaine banque, que n'importe quel autre défi de leadership, tu vas avoir du succès. Moi, j'avais une passion pour la finance, qui est devenue une passion pour la Banque nationale, puis ça s'est bien, ça a bien terminé. Me mettre dans un autre contexte, je doute que ça fonctionnerait aussi bien que ça. Il faut avoir la lucidité de l'admettre, ça aussi.
J'ai aimé sa réponse pour plusieurs raisons, parce que des fois, il est rare de voir des gens qui ont gravi les plus hauts échelons d'un domaine XYZ et de ne pas les entendre dire la réponse traditionnelle de self-made millionaire, c'est moi qui m'ai fait, je suis mon propre patron, je suis un... C'est quoi la phrase qu'on entend? Ça, c'est plus dans le merveilleux monde de l'intellectualité, de l'intelligentsia, des intellectuels qui disent, moi, je suis un... C'est quoi le terme qu'on utilise? Ça va me revenir, excusez-moi. Non, ça me revient pas. Mais ça va me revenir un jour. Mais j'étais content de l'entendre dire, au lieu les facéties qu'on attend habituellement, de dire, hey, savez-vous quoi? J'ai eu du succès dans un domaine X, mais si vous me transposez dans un domaine Y, ça se peut que j'ai pas autant de succès. Lorsqu'il dit justement que c'est contextuel, ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a encore cette vision-là de des gens ont fait de l'argent. Je sais pas, je pense à François Lambert, par exemple. Il a fait beaucoup d'argent, donc son opinion vaut plus qu'une autre personne parce qu'il a fait de l'argent, tu sais. Il pourrait même peut-être se présenter à la mairie de Montréal et régler tous les problèmes parce que il a géré une business, il doit savoir comment il pourrait gérer la ville de Montréal. Après ça, il a comme changé un peu son fusil d'épaule en disant, ouais, c'est peut-être pas tout à fait ça, c'est peut-être pas la même chose. Mais moi, j'ai aimé la lucidité, justement, de Louis Vachon. Moi, j'ai réussi dans mon domaine, mais vous me mettez en politique ou vous mettez Top Gun, ça se peut que ça soit pas le cas aussi. Puis on a tout le temps cette vision-là de mettre, pas qu'on met sur un piédestal quelqu'un qui est riche, fortuné, qui a réussi dans un domaine X, Y, Z, mais de penser de, on va les amener en politique, puis il va devenir un bon père de famille, il va pouvoir bien gérer ça, puis le gouvernement, ça gère comme une business. Non, ça gère pas comme une business. Fait que j'étais content d'entendre ça. C'est pour ça que j'avais le goût de vous le faire jouer. Ça, c'est un truc que j'aimais entendre, c'est pour ça que je vous le fais jouer. Ça, c'est un truc que j'ai moins aimé entendre à la radio du FM 93 le 27 février dernier. Jérôme Landry qui souvent parle de sujets qu'il connaît pas, puis je peux comprendre, parce que t'es chroniqueur, t'es animateur, tu fais de la radio 3 heures par jour, des fois tu vas avoir des sujets que tu maîtrises un peu moins, mais il y a d'autres sujets qui sont dans l'actualité depuis tellement longtemps que je me dis, gardez-vous une petite gêne, ou juste parlez-en pas tant qu'à dire n'importe quoi, puis même si, dans ce cas-ci, Jonathan Trudeau a essayé de contre-argumenter ce qu'il disait, m'en donnant une réponse avec un tweet d'Elon Musk, comme je pense qu'il y a d'autres manières de faire que cela, mais Jonathan Trudeau, Jérôme Landry, qui coanime le midi au FM 93, propriété de Cogeco, à Québec, parlait de changement climatique, ça dure 50 secondes, puis on va y revenir.
Je reviens à un truc que j'avais cité au début janvier, la vidéo qu'Elon Musk a fait pour expliquer les biens fondés d'une taxe sur le carbone, d'une bourse sur le carbone. Puis à un moment donné, dans la vidéo, qui doit se retrouver assez facilement, là, il dit, certains parlent d'un débat scientifique. Mais il dit, quand t'as, je sais quoi, 97% des scientifiques qui disent toute la même affaire, puis 3% qui va à contre-courant, ça s'appelle pas un débat. Là. Ça s'appelle une anomalie statistique.
Ouais,
3% qui refusent de voir l'évidence.
C'est qu'il y a beaucoup... Quand on parle des scientifiques qui parlent de climat, il y a beaucoup de sociologues souvent qui s'expriment sur le climat aussi. Faire attention. Des fois, je prends ça un peu avec des pincettes aussi. L'espèce d'unanimisme qu'il y a là-dessus. Moi, comme citoyen, j'essaie de voir clair là-dedans aussi.
Je l'écoutais, puis j'étais comme, de quoi qu'il parle? De quoi qu'il parle? Quand est-ce que tu sais, moi, j'entends un sociologue souvent, parce qu'il dit sociologue parce qu'il a un PhD en sociologie, parler sur plusieurs enjeux et sujets qu'il ne connaît pas, dont les changements climatiques. Mais quand est-ce que vous entendez des sociologues à la radio vous parler de changement climatique? Moi, j'entends à la Radio de Québec, des fois, un géologue, prof à la retraite, nous parler de changement climatique, et c'est pas son domaine. J'ai entendu un physicien également parler de changement climatique, des fois, mais non, c'était pas son domaine. Les gens qui étudient dans un domaine, qui sont spécialistes dans un domaine, moi, il y a quelques années, puis ma perception de tout ça a changé, là. Il y a quelques années, tu sais, je disais, ah, mais tu sais, ce serait le fun qu'il y ait des scientifiques qui prennent plus de temps, malheureusement, souvent bénévolement, mais qui prennent plus de temps pour venir dans la sphère publique, transmettre leur savoir, leur connaissance, mais de voir à l'état actuel des médias et surtout, en fait, des réseaux sociaux, des gens qui se font menacer suite à des propos très nuancés sur un sujet X, Y, Z, juste parce que ça ne fait pas leur affaire. Je peux comprendre maintenant certains scientifiques de ne plus parler là-dessus. L'affaire qu'on entend souvent sur le 97%, on entend plusieurs variantes qui sont souvent fausses. Le 97%, c'est le chiffre qu'on entend souvent. Des scientifiques, ça c'est souvent des climato-sceptiques ou réalistes qui disent, 97% des scientifiques disent que les changements climatiques sont créés par l'homme. Moi, j'ai pas été invité à me prononcer, donc c'est pas vrai. Non, c'est pas ça, c'est pas les scientifiques. Puis c'est pas juste 97%. En 2021, le chiffre est passé de 97 à 99,9% des articles évalués par des pairs. Puis ça, c'est important parce que on le voit, c'est souvent, il y a certaines études qui sortent, même souvent avec des gros titres dans les journaux. Ah, maintenant, telle affaire. Puis je me rappelle, j'étais petit, puis bon, telle affaire était bon pour la santé, là, c'est plus bon. Mais c'était souvent des études qui étaient même pas évaluées par leur père. Puis quand je dis leur père, P-A-I-R-S, reste que 99,9% des articles évalués par des pairs montrent que les changements climatiques sont principalement causés par l'humain, montre une enquête dans laquelle 88 125 études liées au climat ont été évaluées. Puis c'est en 2013, en fait, qu'il y avait une évaluation du même genre qui avait été menée. Puis là, à ce moment-là, on était à 97%. Ce qui est arrivé après, c'est que plusieurs de ces études-là, il y a des failles qu'on a prouvées en fait dans certaines études, qui là, que là, ça l'a entre autres aidé à ce que le chiffre augmente. Je veux dire, dans le nombre des articles évalués, 99,9%, il n'y a pas de sociologue là-dedans. Là. Des gens qui ont étudié la science du climat, qui ont fait des articles scientifiques évalués par des pairs. Puis l'évaluation par les pairs, là, si vous pensez qu'à la radio, il y a une compétition dans le meilleur monde de la radio privée, là, vous connaissez pas le monde de la science, là. Parce qu'évaluer par des pairs, c'est pas du softball, là. C'est pas comme, c'est à balle donnée, puis ah, ben, t'as évalué tel enjeu, ça va bien passer, ah oui, ok, d'accord. Non, non, c'est très rigoureux, les gens veulent prouver que l'autre a tort. Fait que l'évaluation par les pairs est un processus qui est très rigoureux. Fait que on n'a pas besoin de parler d'Elon Musk là-dessus. Je comprends ce que Jonathan Trudeau voulait faire là-dessus, mais Jérôme Landry, là, moi, de l'entendre commencer à se dire oh, le climat, puis après ça, il arrivait avec. C'est parce que mon problème que j'ai, moi, là-dessus, c'est que là, je paraphrase Jérôme Landry, c'est de dire c'est la résultante, la solution politique au changement climatique. C'est de la décroissance, moi, je veux rien savoir de ça. Soit, vous pouvez être pas d'accord avec des décisions politiques ou des évaluations politiques de qu'est-ce qu'on fait sur un enjeu X, Y, Z. Reste que c'est pas vrai que c'est des sociologues qu'on entend parler de climat. Mais bon, j'écoutais Jérôme Landry parler de ça la semaine dernière. Je suis comme, encore une fois, parle d'un sujet qu'il ne maîtrise pas, mais c'est pas le premier sujet qu'il parle qu'il ne maîtrise pas. Parlant de sujets qu'on ne maîtrise pas, au-delà, dans ce cas-ci, c'est de la malhonnêteté. Je parle du Journal de Montréal en terminant. Une vaste étude mondiale confirme le lien entre les vaccins et la COVID-19 avec de potentiels problèmes de santé. Ça, c'était titré Journal de Montréal. Il n'y a pas un journaliste qui a voulu écrire ça. Fait que c'était écrit par journaldemontréal.com. Je pense que ça en dit beaucoup. Le 20 février dernier, des gens qui sont fâchés contre le Journal de Montréal depuis plusieurs années ont bizarrement tous partagé cette nouvelle-là en disant « Voyez-vous, les gens qui étaient anti-vax finalement avaient raison. » Je ne sais pas qui a eu l'idée de titrer ça. Mais vous lisez l'article du début à la fin, puis à la fin, ça dit « Les chercheurs ont également précisé dans leur analyse que les infections à la COVID-19 se sont révélées plus susceptibles de provoquer les problèmes de santé observés que la vaccination. Selon eux, ce facteur devrait être pris en compte lors de l'évaluation des bénéfices et des risques. D'ailleurs, plusieurs experts ont répété pendant la pandémie que les avantages des vaccins l'emportent alors qu'ils protègent contre les maladies graves, la COVID longue et la mort. » Mais tu sais, faire un article avec ce titre-là, ça passe peut-être moins bien. Il y a moins de clics là-dessus. Fait que moi, de voir le Journal de Montréal encore surfer sur des titres sensationnalistes comme ça, ça vient me chercher. Il y a le Radio X qui a lu cet article-là au complet, qui a même lu la fin, puis après ça, a fait une ligne ouverte en disant « Hey, les antifères, vous aviez raison. » Je vous fais jouer ça par la suite. Ça va être London Café. Bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine.
En fait, j'aurais envie d'essayer quelque chose. Je vais lire la nouvelle et tout ce que je dis, c'est votre réaction, c'est quoi? Réagissez.
Ouais.
J'ai quasiment envie de dire ça.
Bonne
aussi
idée.
Simple que ça.
Ouais.
Et je vais lire la nouvelle là telle quelle, OK? Une vaste étude mondiale confirme le lien entre les vaccins contre la COVID-19 et de potentiels problèmes de santé. C'est une étude qui a été portée sur près de 100 millions de personnes vaccinées dans 8 pays différents, incluant le Canada, l'Argentine, l'Australie, le Danemark, la Finlande, la France, la Nouvelle-Zélande et l'Écosse. C'est l'étude scientifique a examiné les effets indésirables de santé provoqués par l'administration des vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Ils ont répertorié 13 problèmes de santé particulièrement importants et qui sont survenus chez les vaccinés jusqu'à 42 jours après les injections des vaccins, dont le syndrome Guillain-Barré, la paralysie de Bell, des convulsions, la myocardite, la péricardite. Et l'étude qui a été publiée la semaine dernière dans la revue Vaccine a révélé que les produits médicaux étaient associés à une légère augmentation des problèmes médicaux, neurologiques, sanguins et cardiaques. Et à la fin du rapport, pour être totalement là transparente, on dit qu'il y avait l'effet bénéfice versus risque qui était à considérer. Les chercheurs ont précisé dans leur analyse que les infections à la COVID-19 se sont révélées plus susceptibles de provoquer des problèmes de santé observé que la vaccination. Donc, on dit que dans le monde, là, c'est 13,5 milliards de doses qui ont été administrées depuis le début de la pandémie. J'ai envie de réagir, mais j'ai envie aujourd'hui de vous laisser toute la place. C'est quoi votre réaction? J'aurais envie de dire le mot « les covidios », vous en pensez quoi?
Oui.
Hein, les édentés, vous en pensez quoi de cette étude-là? Ouais,
on vous a traité bon, de paria.
J'ai envie de commenter, ouais. Là, mais j'ai dépensé pour plusieurs personnes, là. Pour ceux qui voulaient enfermer, ceux qui se faisaient pas vacciner, qui voulaient les emprisonner, entre autres. Là. Bon, je suis partie.
Live free or die. Je peux-tu faire ce que je veux?
On se fait carrément brainwasher, ça n'a pas de sens pour vrai.
Aller skier en bus, c'est possible et pas cher. Le skibus du RTL vous transporte au Mont-Saint-Bruno pour le prix d'un trajet de bus et des rabais vous sont offerts sur place en plus. Prenez notre ligne 299 au terminus Longueuil tous les samedis et dimanches jusqu'au 31 mars. Vous pouvez même embarquer avec vos skis, planches à neige ou raquettes si vous le voulez. Horaires et infos sur le site du RTL, rtl-longueuil.qc.ca.
Écoutez CISM 89.3 FM.